Nana, chapitre 10. Alors, Nana devint une femme chic, rentière de la bêtise et de l'ordure des mâles, marquise des hauts trottoirs. Ce fut un lançage brusque et définitif, une montée dans la célébrité de la galanterie, dans le plein jour des folies de l'argent et des audaces gâcheuses de la beauté. Elle régna tout de suite parmi les plus chères. Ses photographies s'étalaient aux vitrines, on la citait dans les journaux. Quand elle passait en voiture sur les boulevards, la foule se retournait et la nommait avec l'émotion d'un peuple saluant sa souveraine. Tandis que, familière, allongée dans ses toilettes flottantes, elle souriait d'un air gai sous la pluie de petites frisures blondes qui noyaient le bleu cerné de ses yeux et le rouge peint de ses lèvres. Et le prodige fut que cette grosse fille, si gauche à la scène, si drôle dès qu'elle voulait faire la femme honnête, jouait à la ville les rôles de charmeuse, sans un effort. C'était des souplesses de couleuvre, un déshabillé savant, comme un volontaire exquis d'élégance, une distinction nerveuse de chatte de race, une aristocratie du vice, superbe, révoltée, mettant le pied sur Paris, en maîtresse toute puissante. Elle donnait le ton, de grande dame l'imitait. L'hôtel de Nana se trouvait avenue de Villiers, à l'encoignure de la rue Cardinet, dans ce quartier de luxe, en train de pousser au milieu des terrains vagues de l'ancienne plaine Monceau. Bâti par un jeune peintre, grisé d'un premier succès et qui avait dû le revendre, à peine les plâtres essuyés, il était de style Renaissance, avec un air de palais, une fantaisie de distribution intérieure, des commodités modernes, dans un cadre d'une originalité un peu voulue. Le comte Muffa avait acheté l'hôtel tout meublé, empli d'un monde de bibelots, de fort belles tentures d'Orient, de vieilles crédences, de grands fauteuils Louis XIII. Et Nana était ainsi tombée sur un fond de mobilier artistique, d'un choix très fin, dans le tohu-bohu des époques. Mais, comme l'atelier, qui occupait le centre de la maison, ne pouvait lui servir, elle avait bouleversé les étages, laissant au rez-de-chaussée une serre, un grand salon et la salle à manger, établissant au premier un petit salon près de sa chambre et de son cabinet de toilette. Elle étonnait l'architecte par les idées qu'elle lui donnait, née d'un coup au raffinement du luxe, en fille du pavé de Paris, ayant d'instinct toutes les élégances. Enfin, elle ne gâta pas trop l'hôtel. Elle ajouta même aux richesses du mobilier, sauf quelques traces de bêtises tendres et de splendeurs criardes, où l'on retrouvait l'ancienne fleuriste qui avait rêvé devant les vitrines des passages. Dans la cour, sous la grande marquise, un tapis montait le perron. Et c'était, dès le vestibule, une odeur de violette, un air tiède enfermé dans d'épaisses tentures. Un vitrail, aux verres jaunes et roses, d'une pâleur blonde de chair, éclairait le large escalier. En bas, un nègre de bois sculpté tendait un plateau d'argent, plein de cartes de visite. Quatre femmes de marbre blanc, les seins nus, haussaient des lampadaires, tandis que des bronzes et des cloisonnés chinois emplis de fleurs, des divans recouverts d'anciens tapis persans, des fauteuils aux vieilles tapisseries, meublaient le vestibule, garnissaient les paliers, faisaient au premier étage comme une antichambre, où traînaient toujours des pardessus et des chapeaux d'hommes. Les étoffes étouffaient les bruits. Un recueillement tombait. On aurait cru entrer dans une chapelle traversée d'un frisson dévot, et dont le silence, derrière les portes closes, gardait un mystère. Nana n'ouvrait le grand salon, du Louis XVI, trop riche, que les soirs de gala, quand elle recevait le monde des Tuileries ou des personnages étrangers. D'habitude, elle descendait simplement aux heures des repas, un peu perdue les jours où elle déjeunait seule dans la salle à manger, très haute, garnie de gobelins, avec une crédence monumentale, égayée de vieilles faïences et de merveilleuses pièces d'argenterie ancienne. Elle remontait vite. Elle vivait au premier étage, dans ses trois pièces, la chambre, le cabinet et le petit salon. Deux fois déjà, elle avait refait la chambre. La première en satin mauve, la seconde en application de dentelle sur soie bleue. Et elle n'était pas satisfaite, elle trouvait ça fade, cherchant encore, sans pouvoir trouver. Il y avait pour 20 000 francs de points de Venise au lit capitonné, bas comme un sofa. Les meubles étaient de laque blanche et bleue, incrustés de filets d'argent. Partout, des peaux d'ours blancs traînaient, si nombreuses qu'elles couvraient le tapis. Un caprice, un raffinement de nana, qui n'avait pu se déshabituer de s'asseoir à terre pour ôter ses bas. À côté de la chambre, le petit salon offrait un pêle-mêle amusant, d'un art exquis. Contre la tenture de soie rose pâle, un rose turc fané, broché de fil d'or, se détachait un monde d'objets de tous les pays et de tous les styles. Des cabinets italiens, des coffres espagnols et portugais, des pagodes chinoises, un paravent japonais d'un fini précieux, puis des faïences, des bronzes, des soies brodées, des tapisseries aux petits points. Tandis que des fauteuils larges comme des lits et des canapés profonds comme des alcôves mettaient là une paresse molle, une vie somnolente de sérail. La pièce gardait le ton du vieil or, fondu de vert et de rouge, sans que rien marquât trop la fille, en dehors de la volupté des sièges. Seules deux statuettes de biscuit, une femme en chemise cherchant ses puces, et une autre absolument nue, marchant sur les mains, les jambes en l'air, suffisaient à salir le salon d'une tache de bêtise originelle. Et, par une porte, presque toujours ouverte, on apercevait le cabinet de toilette, tout en marbre et en glace, avec la vasque blanche de sa baignoire, ses pots et ses cuvettes d'argent, ses garnitures de cristal et d'ivoire. Un rideau fermé y faisait un petit jour blanc qui semblait dormir, comme chauffé d'un parfum de violette. Ce parfum troublant de nana, dont l'hôtel entier, jusqu'à la cour, était pénétré. La grosse affaire fut de monter la maison. Nana avait bien Zoé, cette fille dévouée à sa fortune, qui, depuis des mois, attendait tranquillement ce brusque lançage, certaine de son flair. Maintenant, Zoé triomphait, maîtresse de l'hôtel, faisant sa pelote tout en servant madame le plus honnêtement possible. Mais une femme de chambre ne suffisait plus. Il fallait un maître d'hôtel, un cocher, un concierge, une cuisinière. D'autre part, il s'agissait d'installer les écuries. Alors, la bordette se rendit fort utile, en se chargeant des courses qui ennuyaient le comte. Il maquignonna l'achat des chevaux, il courut les carrossiers, guida les choix de la jeune femme qu'on rencontrait à son bras chez les fournisseurs. Même la bordette amena les domestiques. Charles, un grand gaillard de cocher qui sortait de chez le duc de Corbreuse. Julien, un petit maître d'hôtel tout frisé, l'air souriant. Et un ménage dont la femme, Victorine, était cuisinière et dont l'homme, François, fut pris comme concierge et valet de pied. Ce dernier, en culotte courte, poudrée, portant la livrée de nana, bleu clair et galon d'argent, recevait les visiteurs dans le vestibule. C'était d'une tenue et d'une correction princière. Dès le second mois, la maison fut montée. Le train dépassait 300 000 francs. Il y avait 8 chevaux dans les écuries et 5 voitures dans les remises, dont un landau garni d'argent, qui occupa un instant tout Paris. Et Nana, au milieu de cette fortune, se casait, faisait son trou. Elle avait quitté le théâtre dès la troisième représentation de la petite duchesse, laissant Bordenave se débattre sous une menace de faillite, malgré l'argent du comte. Pourtant, elle gardait une amertume de son insuccès. Cela s'ajoutait à la leçon de Fontan, une saleté dont elle rendait tous les hommes responsables. Aussi, maintenant, se disait-elle très forte, à l'épreuve des toquades. Mais les idées de vengeance ne tenaient guère avec sa cervelle d'oiseau. Ce qui demeurait, en dehors des heures de colère, était chez elle un appétit de dépense toujours éveillé, un dédain naturel de l'homme qui payait, un continuel caprice de mangeuse et de gâcheuse, fière de la ruine de ses amants. D'abord, Nana mit le comte sur un bon pied. Elle établit nettement le programme de leur relation. Lui donnait 12 000 francs par mois, sans compter les cadeaux, et ne demandait en retour qu'une fidélité absolue. Elle jura la fidélité, mais elle exigea des égards, une liberté entière de maîtresse de maison, un respect complet de ses volontés. Ainsi, elle recevrait tous les jours ses amis. Ils viendraient seulement à des heures réglées. Enfin, sur toute chose, il aurait une foi aveugle en elle. Et, quand il hésitait, pris d'une inquiétude jalouse, elle faisait de la dignité, en menaçant de lui tout rendre. Ou bien, elle jurait sur la tête du petit Louis. Ça devait suffire. Il n'y avait pas d'amour ou il n'y avait pas d'estime. Au bout du premier mois, Muffat la respectait. Mais elle voulut, et elle obtint davantage. Bientôt, elle prit sur lui une influence de bonne fille. Quand il arrivait maussade, elle l'égayait, puis le conseillait, après l'avoir confessé. Peu à peu, elle s'occupa des ennuis de son intérieur, de sa femme, de sa fille, de ses affaires de cœur et d'argent. Très raisonnable, pleine de justice et d'honnêteté. Une seule fois, elle se laissa emporter par la passion, le jour où il lui confia que Daguenay allait sans doute demander en mariage sa fille Estelle. Depuis que le comte s'affichait, Daguenay avait cru habile de rompre, de la traiter en coquine, jurant d'arracher son futur beau-père des griffes de cette créature. Aussi habilla-t-elle d'une jolie manière son ancien Mimi. C'était un coureur qui avait mangé sa fortune avec de vilaines femmes. Il manquait de sens moral. Il ne se faisait pas donner d'argent, mais il profitait de l'argent des autres, en payant seulement de loin en loin un bouquet ou un dîner. Et, comme le comte semblait excuser ses faiblesses, elle lui apprit crûment que Daguenay l'avait tue. Elle donna des détails dégoûtants. Muffat était devenu très pâle. Il ne fut plus question du jeune homme. Ça lui apprendrait à manquer de reconnaissance. Cependant, l'hôtel n'était pas entièrement meublé, que Nana, un soir où elle avait prodigué à Muffat les serments de fidélité les plus énergiques, retint le comte Xavier de Vandœuvre, qui, depuis 15 jours, lui faisait une cour assidue de visites et de fleurs. Elle céda, non par toquade, plutôt pour se prouver qu'elle était libre. L'idée d'intérêt vint ensuite lorsque Vandœuvre, le lendemain, l'aida à payer une note dont elle ne voulait pas parler à l'autre. Elle lui tirerait bien 8 à 10 000 francs par mois. Ce serait là de l'argent de poche très utile. Il achevait alors sa fortune dans un coup de fièvre chaude. Ses chevaux et Lucie lui avaient mangé 3 fermes. Nana allait d'une bouchée avaler son dernier château, près d'Ancien. Et il avait comme une hâte de tout balayer, jusqu'au décombre de la vieille tour bâtie par un Vandœuvre sous Philippe Auguste, enragé d'un appétit de ruine, trouvant beau de laisser les derniers besants d'or de son blason aux mains de cette fille que Paris désirait. Lui aussi accepta les conditions de Nana, une liberté entière, des tendresses à jour fixe, sans même avoir la naïveté passionnée d'exiger des serments. Muffa ne se doutait de rien. Quant à Vandeuvre, il savait à coup sûr, mais jamais il ne faisait la moindre allusion. Il affectait d'ignorer, avec son fin sourire de viveur sceptique, qui ne demande pas l'impossible, pourvu qu'il ait son heure et que Paris le sache. Dès lors, Nana eut réellement sa maison montée. Le personnel était complet, à l'écurie, à l'office et dans la chambre de madame. Zoé organisait tout, sortait des complications les plus imprévues. C'était machiné comme un théâtre, réglé comme une grande administration. Et cela fonctionnait avec une précision telle que, pendant les premiers mois, il n'y eut pas de heurts ni de détraquements. Seulement, madame donnait trop de mal à Zoé, par des imprudences, des coups de tête, des bravades folles. Aussi, la femme de chambre se relâchait-elle peu à peu, ayant remarqué d'ailleurs qu'elle tirait de plus gros profit des heures de gâchis, quand madame avait fait une bêtise qu'il fallait réparer. Alors, les cadeaux pleuvaient, elle pêchait des louis dans l'eau trouble. Un matin, comme Muffa n'était pas encore sorti de la chambre, Zoé introduisit un monsieur tout tremblant dans le cabinet de toilette, où Nana changeait de linge. « Tiens, Zizi !» dit la jeune femme stupéfaite. C'était Georges, en effet. Mais en la voyant en chemise, avec ses cheveux d'or sur ses épaules nues, il s'était jeté à son cou, l'avait prise et la baisait partout. Elle se débattait, effrayée, étouffant sa voix, balbutiant. « Finis donc, il est là, c'est stupide. Et vous, Zoé, êtes-vous folle? Emmenez-le, gardez-le en bas, je vais tâcher de descendre. » Zoé dut le pousser devant elle. En bas, dans la salle à manger, lorsque Nana put les rejoindre, elle les gronda tous les deux. Zoé pinçait les lèvres et elle se retira, l'air vexé, en disant qu'elle avait pensé faire plaisir à madame. Georges regardait Nana avec un tel bonheur de la revoir que ses beaux yeux s'emplissaient de larmes. Maintenant, les mauvais jours étaient passés. Sa mère le croyait raisonnable et lui avait permis de quitter les fondettes. Aussi, en débarquant à la gare, venait-il de prendre une voiture pour embrasser plus vite sa bonne chérie. Il parlait de vivre désormais près d'elle, comme là-bas, quand il l'attendait pieds nus dans la chambre de la mignotte. Et, tout en contant son histoire, il avançait les doigts par un besoin de la toucher après cette cruelle année de séparation. Il s'emparait de ses mains, fouillait dans les larges manches du peignoir, remontait jusqu'aux épaules. « Tu aimes toujours ton bébé ? » demanda-t-il de sa voix d'enfant. « Bien sûr que je l'aime, » répondit Nana, qui se dégagea d'un mouvement brusque. « Mais tu tombes sans crier gare. Tu sais, mon petit, je ne suis pas libre. Il faut être sage. » Georges, descendu de voiture dans l'éblouissement d'un long désir enfin contenté, n'avait pas même vu les lieux où il entrait. Alors, il eut conscience d'un changement autour de lui. Il examina la riche salle à manger, avec son haut plafond décoré, ses gobelins, son dressoir éblouissant d'argenterie. « Ah oui !» dit-il tristement. Elle lui fit entendre qu'il ne devait jamais venir le matin. L'après-midi, s'il voulait, de 4 à 6. C'était l'heure où elle recevait. Puis, comme il la regardait d'un air suppliant d'interrogation, sans rien demander, elle le baisa à son tour sur le front en se montrant très bonne. « Sois bien sage, je ferai mon possible, » murmura-t-elle. Mais la vérité était que ça ne lui disait plus rien. Elle trouvait Georges très gentil, elle aurait voulu l'avoir pour camarade, pas davantage. Cependant, quand il arrivait tous les jours à 4 heures, il semblait si malheureux qu'elle cédait souvent encore, le gardait dans ses armoires, lui laissait continuellement ramasser les miettes de sa beauté. Il ne quittait plus l'hôtel, familier comme le petit chien Bijou, l'un et l'autre dans les jupes de maîtresse, ayant un peu d'elle, même lorsqu'elle était avec un autre, attrapant des aubaines de sucre et de caresses aux heures d'ennui solitaire. Sans doute, Madame Hugon apprit la rechute du petit entre les bras de cette mauvaise femme, car elle accourut à Paris. Elle vint réclamer l'aide de son autre fils, le lieutenant Philippe, alors en garnison à Vincennes. Georges, qui se cachait de son frère aîné, fut pris de désespoir, craignant quelque coup de force. Et, comme il ne pouvait rien garder dans l'expansion nerveuse de sa tendresse, il n'entretint bientôt plus Nana que de son grand frère, un gaillard solide qui oserait tout. « Tu comprends ? » expliquait-il. « Maman ne viendra pas chez toi, tandis qu'elle peut envoyer mon frère. Bien sûr, elle va envoyer Philippe me chercher. » La première fois, Nana fut très blessée. Elle dit sèchement « Je voudrais voir ça, par exemple. Il a beau être lieutenant, François te le flanquera à la porte et raide. » Puis, le petit revenant toujours sur son frère, elle finit par s'occuper de Philippe. Au bout d'une semaine, elle le connut des pieds à la tête, très grand, très fort, gai, un peu brutal, et avec ça des détails intimes, des poils sur les bras, un signe à l'épaule. Si bien qu'un jour, toute pleine de l'image de cet homme qu'elle devait jeter à la porte, elle s'écria « Dis donc, Zizi, il ne vient pas, ton frère. C'est donc un lâcheur. » Le lendemain, comme Georges se trouvait seul avec Nana, François monta pour demander si madame recevrait le lieutenant Philippe Hugon. Il devint tout pâle. Il murmura « Je m'en doutais. Maman m'a parlé ce matin. » Et il suppliait la jeune femme de faire répondre qu'elle ne pouvait recevoir. Mais elle se levait déjà, tout enflammée, en disant « Pourquoi donc? Il croirait que j'ai peur. Ah bien, nous allons rire. François, laissez ce monsieur un quart d'heure dans le salon, ensuite vous me l'amènerez. » Elle ne se rassit pas. Elle marchait, fiévreuse, allant de la glace de la cheminée à un miroir de Venise, pendu au-dessus d'un coffret italien. Et chaque fois, elle donnait un coup d'œil, essayait un sourire, tandis que Georges, sans force sur un canapé, tremblait à l'idée de la scène qui se préparait. Tout en se promenant, elle lâchait des phrases courtes. « Ça le calmera, ce garçon, d'attendre un quart d'heure. Et puis, s'il croit venir chez une fille, le salon va l'épater. Oui, oui, regarde bien tout, mon bonhomme. Ce n'est pas du toc, ça t'apprendra à respecter la bourgeoise. » Mais il n'y a encore que le respect pour les hommes. Hein? Le quart d'heure est écoulé? Non, à peine 10 minutes. Oh, nous avons le temps. » Elle ne tenait pas en place. Au quart, elle renvoya Georges en lui faisant jurer de ne pas écouter à la porte, car ce serait inconvenant si les domestiques le voyaient. Comme il passait dans la chambre, Zizi risqua d'une voix étranglée. « Tu sais, c'est mon frère. » « N'aie pas peur, » dit-elle avec dignité. « S'il est poli, je serai poli. » François introduisait Philippe Hugon, qui était en redingote. D'abord, Georges traversa la chambre sur la pointe des pieds pour obéir à la jeune femme. Mais les voix le retinrent, hésitant, si plein d'angoisse que ses jambes mollissaient. Il s'imaginait des catastrophes, des gifles, quelque chose d'abominable qui le fâcherait pour toujours avec Nana. Aussi ne put-il résister au besoin de revenir coller son oreille contre la porte. Il entendait très mal, l'épaisseur des portières étouffait les bruits. Pourtant, il attrapait quelques mots prononcés par Philippe, des phrases dures où sonnaient les mots d'enfant, de famille, d'honneur. Dans l'anxiété de ce que sa chérie allait répondre, son cœur battait, l'étourdissait d'un bourdonnement confus. À coup sûr, elle lâcherait « sale mufle » ou un « foutez-moi la paix, je suis chez moi ». Et rien ne venait, pas un souffle. Nana était comme morte là-dedans. Bientôt même, la voix de son frère s'adoucit. Il ne comprenait plus. lorsqu'un murmure étrange acheva de le stupéfier. C'était Nana qui sanglotait. Pendant un instant, il fut en proie à des sentiments contraires, se sauver, tomber sur Philippe. Mais juste à cette minute, Zoé entra dans la chambre et il s'éloigna de la porte, honteux d'être surpris. Tranquillement, elle rangeait du linge dans une armoire, tandis que, muet, immobile, il appuyait le front contre une vitre, dévoré d'incertitude. Elle demanda au bout d'un silence « C'est votre frère qui est chez madame ?»« Oui, » répondit l'enfant d'une voix étranglée. Et il y eut un nouveau silence. « Et ça vous inquiète, n'est-ce pas, monsieur Georges ?»« Oui, » répéta-t-il avec la même difficulté souffrante. Zoé ne se pressait pas. Elle plia des dentelles. Elle dit lentement « Vous avez tort. Madame va arranger ça. » Et ce fut tout. Ils ne parlèrent plus. Mais elle ne quittait pas la chambre. Un grand quart d'heure encore, elle tourna, sans voir monter l'exaspération de l'enfant, qui blêmissait de contraintes et de doutes. Il jetait des coups d'œil obliques sur le salon. Que pouvait-il faire pendant si longtemps? Peut-être Nana pleurait-elle toujours? L'autre, brutal, devait lui avoir fichu des calottes. Aussi, lorsque Zoé s'en alla enfin, courut-il à la porte, collant de nouveau son oreille. Et il resta effaré, la tête décidément perdue, car il entendait une brusque envolée de gaieté, des voix tendres qui chuchotaient, des rires étouffés de femmes qu'on chatouille. D'ailleurs, presque aussitôt, Nana reconduisit Philippe jusqu'à l'escalier, avec un échange de paroles cordiales et familières. Quand Georges osa rentrer dans le salon, la jeune femme, debout devant la glace, se regardait. « Eh bien ? » demanda-t-il, ahuri. « Eh bien quoi ? » dit-elle sans se retourner. Puis, négligemment, « Que disais-tu donc ? Il est très gentil, ton frère. »« Alors, c'est arrangé ?»« Bien sûr, c'est arrangé. Ah, ça, que te prend-il ? On croirait que nous allions nous battre. » Georges ne comprenait toujours pas. Il balbutia. « Il m'avait semblé entendre... « Tu n'as pas pleuré ?»« Pleuré, moi ? » cria-t-elle en le regardant fixement. « Tu rêves ? Pourquoi veux-tu que j'aie pleuré ?» Et ce fut l'enfant qui se troubla quand elle lui fit une scène pour avoir désobéi et s'être arrêté derrière la porte à moucharder. Comme elle le boudait, il revint, avec une soumission câline, voulant savoir. « Alors, mon frère ?»« Ton frère a vu tout de suite où il était ?» « Tu comprends, j'aurais pu être une fille, et dans ce cas, son intervention s'expliquait, à cause de ton âge et de l'honneur de ta famille. « Oh, moi, je comprends ses sentiments. Mais un coup d'œil lui a suffi, il s'est conduit en homme du monde. Aussi, ne t'inquiète plus, tout est fini, il va tranquilliser ta maman. » Et elle continua avec un rire. « D'ailleurs, tu verras ton frère ici, je l'ai invité, il reviendra. » « Ah, il reviendra ?» dit le petit en pâlissant. Il n'ajouta rien, on ne causa plus de Philippe. Elle s'habillait pour sortir, et il la regardait de ses grands yeux tristes. Sans doute, il était bien content que les choses se fussent arrangées, car il aurait préféré la mort à une rupture. Mais, au fond de lui, il y avait une angoisse sourde, une douleur profonde qu'il ne connaissait pas, et dont il n'osait parler. Jamais il ne sut de quelle façon Philippe rassura leur mère. 3 jours plus tard, elle retournait au fond d'aide, l'air satisfait. Le soir même, chez Nana, il tressaillit, lorsque François annonça le lieutenant. Celui-ci, gaiement, plaisanta, le traita en galopin dont il avait favorisé une escapade qui ne tirait pas à conséquence. Lui restait le cœur serré, n'osant plus bouger, ayant des rougeurs de fille au moindre mot. Il avait peu vécu dans la camaraderie de Philippe, son aîné de 10 ans. Il le redoutait à l'égal d'un père, auquel on cache les histoires de femmes. Aussi éprouvait-il une honte pleine de malaise en le voyant si libre près de Nana, riant très haut, lâché dans le plaisir avec sa belle santé. Cependant, comme son frère se présenta bientôt tous les jours, Georges finit par s'accoutumer un peu. Nana rayonnait. C'était un dernier emménagement en plein gâchis de la vie galante, une crémaillère pendue insolemment dans un hôtel qui crevait d'hommes et de meubles. Une après-midi que les fils Hugon se trouvaient là, le comte Muffat vint en dehors des heures réglées. Mais Zoé lui ayant répondu que madame était avec des amis, il se retira sans vouloir entrer, affectant une discrétion de galant homme. Lorsqu'il reparut le soir, Nana l'accueillit avec la froide colère d'une femme outragée. « Monsieur, dit-elle, je ne vous ai donné aucune raison de m'insulter. Entendez-vous, quand je serai chez moi, je vous prie d'entrer comme tout le monde. » Le comte restait béant. « Mais, ma chère, tâcha-t-il d'expliquer, parce que j'avais des visites peut-être. Oui, il y avait des hommes. Que croyez-vous donc que je fasse avec ces hommes ? On affiche une femme en prenant de ses airs d'un monde discret, et je ne veux pas être affichée, moi. » Il obtint difficilement son pardon. Au fond, il était ravi. C'était par des scènes pareilles qu'elle le tenait souple et convaincu. Depuis longtemps, elle lui avait imposé Georges, un gamin qui l'amusait, disait-elle. Elle le fit dîner avec Philippe, et le comte se montra très aimable. Au sortir de table, il prit le jeune homme à part. Il lui demanda des nouvelles de sa mère. Dès lors, les fils Hugon, Vandœuvre et Muffat furent ouvertement de la maison, où ils se serraient la main en intime. C'était plus commode. Seul Muffat mettait encore de la discrétion à venir trop souvent, gardant le temps de cérémonie d'un étranger en visite. La nuit, quand Nana, assise à terre sur ses peaux d'ours, retirait ses bas, il parlait amicalement de ces messieurs, de Philippe surtout, qui était la loyauté même. « Ça, c'est vrai, ils sont gentils, » disait Nana, restée par terre à changer de chemise. « Seulement, tu sais, ils voient qui je suis. Un mot et je te les flanquerai à la porte. » Cependant, dans son luxe, au milieu de cette cour, Nana s'ennuyait à crever. Elle avait des hommes pour toutes les minutes de la nuit et de l'argent jusque dans les tiroirs de sa toilette, mêlés aux peignes et aux brosses. Mais ça ne la contentait plus. Elle sentait comme un vide quelque part, un trou qui la faisait bâiller. Sa vie se traînait inoccupée, ramenant les mêmes heures monotones. Le lendemain n'existait pas. Elle vivait en oiseau, sûre de manger, prête à coucher sur la première branche venue. Cette certitude qu'on la nourrirait, la laisserait allonger la journée entière, sans un effort, endormie au fond de cette oisiveté et de cette soumission de couvent, comme enfermée dans son métier de fille. Ne sortant qu'en voiture, elle perdait l'usage de ses jambes. Elle retournait à des goûts de camine, baisait bijoux du matin au soir, tuait le temps à des plaisirs bêtes, dans son unique attente de l'homme, qu'elle subissait d'un air de lassitude complaisante. Et, au milieu de cet abandon d'elle-même, elle ne gardait guère que le souci de sa beauté, un soin continuel de se visiter, de se laver, de se parfumer partout, avec l'orgueil de pouvoir se mettre nue, à chaque instant et devant n'importe qui, sans avoir à rougir. Le matin, Nana se levait à 10 heures. Bijou, le griffon écossais, la réveillait en lui léchant la figure. Et c'était alors un joujou de 5 minutes, des courses du chien à travers ses bras et ses cuisses qui blessaient le comte Muffat. Bijou fut le premier petit homme dont il eut de la jalousie. Ce n'était pas convenable qu'une bête mît de la sorte le nez sous les couvertures. Puis, Nana passait dans son cabinet de toilette où elle prenait un bain. Vers 11 heures, Francis venait lui relever les cheveux, en attendant la coiffure compliquée de l'après-midi. Au déjeuner, comme elle détestait de manger seule, elle avait presque toujours Madame Maloire, qui arrivait le matin de l'inconnu avec ses chapeaux extravagants et retournait le soir dans ce mystère de sa vie dont personne d'ailleurs ne s'inquiétait. Mais le moment le plus dur, c'était les 2 ou 3 heures entre le déjeuner et la toilette. D'ordinaire, elle proposait un bésigue à sa vieille amie. Parfois, elle lisait le Figaro, où les échos des théâtres et les nouvelles du monde l'intéressaient. Même, il lui arrivait d'ouvrir un livre, car elle se piquait de littérature. Sa toilette la tenait jusqu'à près de 5 heures. Alors seulement, elle s'éveillait de sa longue somnolence, sortant en voiture ou recevant chez elle toute une cohue d'hommes, dînant souvent en ville, se couchant très tard, pour se relever le lendemain avec la même fatigue et recommencer des journées toujours semblables. Sa grosse distraction était d'aller aux Batignolles voir son petit Louis chez sa tante. Pendant des 15 jours, elle l'oubliait, puis c'était des rages. Elle accourait à pied, pleine d'une modestie et d'une tendresse de bonne mère, apportant des cadeaux d'hôpital, du tabac pour la tante, des oranges et des biscuits pour l'enfant. Ou bien elle arrivait dans son landau, au retour du bois, avec des toilettes dont le tapage ameutait la rue solitaire. Depuis que sa nièce était dans les grandeurs, Madame le Rat ne dégonflait pas de vanité. Elle se présentait rarement avenue de Villiers, affectant de dire que ce n'était pas sa place. Mais elle triomphait dans sa rue, heureuse lorsque la jeune femme venait avec des robes de 4 ou 5 000 francs, occupée tout le lendemain à montrer ses cadeaux et à citer des chiffres qui stupéfiaient les voisines. Le plus souvent, Nana réservait ses dimanches pour la famille, et ces jours-là, si Muffa l'invitait, elle refusait, avec le sourire d'une petite bourgeoise. Pas possible, elle dînait chez sa tante, elle allait voir bébé. Avec ça, ce pauvre petit homme de Louisée était toujours malade. Il marchait sur ses 3 ans, ça faisait un gaillard. Mais il avait eu un eczéma sur la nuque, et maintenant des dépôts se formaient dans ses oreilles, ce qui faisait craindre une carie des os du crâne. Quand elle le voyait si pâle, le sang gâté avec sa chair molle, tachée de jaune, elle devenait sérieuse. Et il y avait surtout chez elle de l'étonnement. Que pouvait-il avoir, cet amour, pour s'abîmer ainsi? Elle, sa mère, se portait si bien. Les jours où son enfant ne l'occupait pas, Nana retombait dans la monotonie bruyante de son existence. Promenades au bois, première représentation, dîner et souper à la Maison d'Or ou au Café Anglais. Puis tous les lieux publics, tous les spectacles où la foule se ruait. Mabille, les revues, les courses. Et elle gardait quand même ce trou d'oisiveté bête qui lui donnait comme des crampes d'estomac. Malgré les continuelles tocades qu'elle avait au cœur, elle s'étirait les bras dès qu'elle était seule, dans un geste de fatigue immense. La solitude l'attristait tout de suite, car elle s'y retrouvait avec le vide et l'ennui d'elle-même. Très gaie par métier et par nature, elle devenait alors lugubre, résumant sa vie dans ce cri qui revenait sans cesse entre 2 bâillements. « Oh, que les hommes m'embêtent !» Une après-midi, comme elle rentrait d'un concert, Nana remarqua, sur un trottoir de la rue Montmartre, une femme qui trottait, les bottines éculées, les jupes sales, avec un chapeau détrempé par les pluies. Tout d'un coup, elle la reconnut. « Arrêtez, Charles » cria-t-elle au cocher, et appelant « Satin ! Satin !» Les passants tournèrent la tête, la rue entière regarda. Satin s'était approché et se salissait encore aux roues de la voiture. « Monte donc, ma fille !» dit Nana tranquille, se moquant du monde. Et elle la ramassa, elle l'emmena, dégoûtante, dans son landau bleu clair, à côté de sa robe de soie gris-perle garnie de chantilly, tandis que la rue souriait de la haute dignité du cocher.